Avoigny. Cette semaine, Dany Le Gras rencontre Denis Lavant. Ce soir, s'emparer des forces étrangères.
Bonsoir Denis Lavant.
Bonsoir.
Nous avons évoqué hier votre compagnonnage avec Léo Scarrax.
Je vous remercie pour le mot compagnonnage.
Voilà, j'ai cru comprendre que vous aimez bien cette expression pour décrire votre relation. Mais nous n'avons pas eu le temps de parler de Holly Motors. Je vous avoue que je vous ai trouvé époustouflant dans ce film qui est sorti en 2012. Vous y jouez prodigieusement une douzaine de personnages, tour à tour grand patron, mendiante, créature monstrueuse, monsieur merde, père des familles, meurtrier, etc. Alors, la question qui me taraude, la question qui m'habitait pendant tous les deux heures de film, de diffusion du film, comment fait-on de la place pour autant de personnages, Denis Lavant?
Ça implique un questionnement démesuré, parce que qu'est-ce que c'est un personnage? Déjà, c'est tout le problème, je vois, que vous avez là. La construction du personnage de Stanislavski, que je n'ai jamais lu en entier. Donc, on a un petit peu, disons, abordé, pour moi, cette méthode, ou en tout cas cet extrême de l'incarnation avec le rôle d'Alex dans Les Amants du Pont Neuf, en essayant de se mouiller vraiment dans l'atmosphère de la rue, de la misère sociale, pour essayer de le faire retentir, de rendre crédible un personnage, ce qui n'est pas forcément la bonne voie. Quoi, en tout cas, moi, je me suis rendu compte sur 3 ans de tournage que il y avait besoin aussi d'une distance. Que si on collait à l'état de vie d'un personnage, on risquait de ne plus pouvoir le jouer et de se faire interner, en fait. Parce que effectivement, on n'a plus la distance où il y a du jeu, que ce moment de plaisir aussi qui donne le jeu. Quand il y a du jeu entre deux éléments, c'est qu'elles peuvent bouger, c'est qu'elles sont pas scellées. Et quand c'est scellé, quand un masque qui serait scellé sur le visage, bah il y a pas de jeu, il y a de la folie qui retentit. Et on n'accepte plus de jouer. C'est-à-dire on se prête plus à cette pratique de faire une chose, de dire non, c'est pas bien comme ça, de répéter, de la reprendre, de la construire, de l'améliorer, de la perfectionner, de l'affiner, de la densifier. Et donc pour Holly Motors, finalement, ça a été complètement différent, parce que on n'a plus abordé la notion de personnage de la même manière qu'on l'avait abordé dans les 3 films précédents avec Léos. C'est-à-dire dans Boy Meets Girl, dans Mauvais Sang et dans Les Amants du Pont Neuf, il s'agissait pour moi d'incorporer un personnage, de me conditionner pour une entité, un Alex, avec un parcours particulier, avec une personnalité particulière. Là, il s'agissait brusquement de cette problématique effrayante de jouer une dizaine de personnages très différents. Or, on avait abordé avant le tournage de Holly Motors, avant même qu'il y ait cette idée, ce scénario de film, on avait expérimenté un de ces personnages avec Léos dans une retrouvaille, disons une 15aine d'années après Les Amants du Pont Neuf, qui est le personnage de Monsieur Merde dans Tokyo. Ce triptyque, en fait, où il y a trois têtes, trois réalisateurs, il y a Bong Joon-ho, Michel Gondry et Léos. Et avec Léos, on a inventé, plutôt c'est lui qui m'a proposé d'incarner ce personnage complètement artificiel, quoi, fait de postiche, complètement composé.
Mais absolument crédible.
Naturellement, quoi, on s'y efforce.
Et à ce propos, vous dites que ce personnage a toujours existé chez vous.
Oui, mais pour moi, effectivement, qui était presque une évidence. À l'inverse des autres personnages qu'on a créés, des autres Alex, où il a fallu les chercher, tâtonner, se tromper, dire non, c'est ça Alex, non, c'est pas ça. Et là, dès les premiers essais de Monsieur Merde, qu'on a fait à Paris avant de partir à Tokyo, avec un peu des bouts de postiche, des bouts de maquillage, des bouts de costume, et la démarche qui m'a été directement inspirée par un personnage de la Commedia dell'arte, qui est Pulcinella, que j'avais abordé dans un canevas à l'époque avec Carlo Bozzo. Vous voyez comme quoi ça retentit encore. Et Léos, dès le lendemain, il me dit « Ah, il est là, le personnage, il apparaît. C'était incroyable.
Plus extrême que ça, vous avez inventé une langue pour ce personnage.
Oui, oui. C'est Léos qui a écrit une langue pour une partition langagière pour le personnage. C'est le maire d'Ogon qui retentit surtout dans Agloglia, Agloglia, Alcaro tout de suite. Voilà, qui est la première expression, mais après, qui est une langue que je pratique encore avec plaisir, que je suis bien le seul à pratiquer, parce que Jean-François Balmer, qui joue mon avocat, qui est aussi un maire d'Ogoneux dans le film, je crois qu'il a oublié le maire d'Ogon. D'après, à part, oui, la hippopostonette, qui est un peu l'invocation à l'entité divine maire d'Ogon. Et donc, tout ce personnage, il me convenait à merveille. Avec, c'est vraiment encore cette chose qui est issue de l'univers de l'enfance. D'avoir un personnage comme ça, presque descendant des burlesques, et en plus qui a une langue secrète, et qui fait que personne ne comprend, et qui fait que des bêtises. Qui se comporte très mal dans la rue, dans la société, qui est scandaleux en fait, mais drôle en même temps, quoi, avec une sorte de folie, quoi. C'est un personnage violent quand même, qui lâche des grenades dans les lieux publics et tout, mais avec une sorte de côté jubilatoire iconoclaste qui est merveilleux. Donc ça, c'était le premier personnage où il n'était pas question, comme pour les autres, c'est-à-dire soit de descendre dans la rue, soit de s'entraîner à sauter en parachute, soit de vivre une intensité de personnage dans la réalité pour pouvoir le montrer dans le film. Là, il s'agissait d'épouser une forme. De trouver le comportement, déjà avec des paramètres très précis. D'ailleurs, des très, très concrets, je veux dire, des ongles très longs et pourris. Quoi, donc des ongles donc qui permettent ils font qu'on tient pas les mains, on prend pas les choses normalement, quoi. Une postiche comme ça, un œil aveuglé par une grosse lentille, donc juste borgne en fait, et pieds nus comme ça avec un petit costume vert, et Léos m'avait indiqué une sorte de démarche à grande enjambée comme ça, avec la main sur le cœur et tout le temps les yeux vers le ciel, quoi, tout le temps. Et donc déjà il y a une attitude physique, et moi je l'ai en fait. C'est l'idéal. On me donne ça. Moi, plutôt que d'avoir des renseignements psychologiques ou chercher une vérité, une authenticité, on me donne une attitude physique et je l'investis. Je l'investis de mon énergie et je suis libre de penser à l'intérieur de ça et de trouver ma cohérence. Puisque c'est ma capacité de danseur qui parle.
Et est-ce que ça là-dedans. Se fait aussi pour les autres personnages?
Et pour les personnages, c'était plus compliqué. Mais disons que ce mode de travail, il est parti directement de Monsieur Merde. Et après, effectivement, il y a Léos qui m'a proposé cette galerie de personnages, dont la plupart qui m'étaient totalement inconnus. Il y en avait un qu'on appelle Alex à un moment donné. Il peut être issu un peu de l'univers de Mauvais Sang, par exemple. Et après, il y a des figures, pour moi, qui étaient nouvelles. Le gros banquier, comme ça, qui au départ, la vieille Rome, comme ça, qui fait la manche sur le pont Alexandre III, le père de famille. Et donc, c'était effrayant, naturellement. Effrayant de dire, ah, comment je vais faire ça? Par quel bout prendre? Parce que déjà, un personnage, c'est compliqué. 10 personnages, et chaque fois, je me dis, mais pourquoi c'est moi? Pourquoi ça tombe sur moi de faire ça? Jusqu'au jour où on a commencé, effectivement, à préparer. Et puis, on a fait des essais avec Edith Scob, qui joue mon chauffeur, factotum, agent, impresario. Et on avait fait des essais de limousine. Faire un petit tour, parce que tout se passe, c'est quand même le lieu du film, quoi, le véhicule, c'est la limousine. Et moi, j'étais quand même un peu mort de trouille à l'idée d'aborder ce tournage. Et Edith, elle a le bon goût de me dire, mais c'est merveilleux quand même. Tu te rends compte, le cadeau qu'il te fait, la chance que tu as de jouer. Et moi, je me dis, ah bah ouais, en fait, c'est vrai. Pourquoi avoir le côté négatif, empêtrant? C'est effectivement un cadeau merveilleux. Mais après, bon, ça demande du boulot. Et en fait, là où j'ai trouvé, parce que le comment aborder ça, est-ce qu'il n'était pas question de faire une plongée stanislavskienne dans l'âme, dans la psyché de chaque personnage, ni dans la vie de chacun de ces personnages que je vais jouer? Et là où ça est devenu à peu près clair, c'est quand on a commencé à faire les essais avec le chef maquilleur, et où en fait on a commencé à mettre des postiches, à préparer. Et en fait, je me suis dit, en fait, l'idéal, c'est quand même que je me rase complètement la tête. Bon, là, j'ai la tête que j'ai pour un spectacle forain que je fais, n'est-ce pas?
Alors, décrivez-vous.
Alors, je suis avec ma calvitie plus connaissante. J'ai complètement abrasé. J'ai gardé un peu des touffes de cheveux sur les côtés et juste une petite mèche, un peu à la Bozo.
Un peu coup, rebelle.
Voilà. Et voilà, et je fais le beau Gérard, n'est-ce pas, qui est un homme bien sous tout rapport, mais qui se révèle très vite un affreux mac, toxicomane et ultra-violent, voilà.
Mais là, aujourd'hui, vous êtes très élégant, habillé en bleu,
ah oui,
mais vous avez une petite casquette, comment on appelle ça?
Un bonnet, ça s'appelle.
Un petit bonnet, ouais. Marin.
Ouais, ouais,
et donc, mettre mon chapeau aussi dessus. Très, très bien. Voilà. Denis Lavant, justement, puisqu'on parle de tous ces personnages de l'Humotors, franchement, moi, en tant que spectatrice, ça me fait vraiment penser au théâtre.
Oui.
Justement. Et j'aimerais bien parler un peu de théâtre avec vous, parce que vous avez un vécu très dense lié au théâtre. Vous avez joué les œuvres des plus grands et vous avez prêté vos traits à une foule de personnages. Ceux de Shakespeare, Rabelais, Tchekhov, Hugo, Jarry, Brecht, Thomas Bernhard, Molière, Beckett, Coltès, Henri Miller, pour n'en citer que quelques-uns. Vous jouez pratiquement toute l'année et c'est depuis fort longtemps. C'est donc toute une vie, si j'ose dire, consacrée au théâtre. Vous dites, je vous cite, que l'effet de jouer au théâtre, c'est quelque chose qui permet d'exorciser beaucoup de choses. Vous avez dit
oui,
ça.
Oui, j'ai dit à un moment donné.
Et de se laver aussi, de se purger, et ça c'est très beau, de s'emparer des forces étrangères, de ces démons, et de leur tordre les coups. Comment faites-vous pour évoquer ces forces étrangères, Denis Lavant?
Je ne sais pas.
C'est un mystère.
Oui, il faut. Je veux bien venir au théâtre, mais il faut que je termine ce que j'essaie d'indiquer par rapport justement ces personnages de Holy Motors. Comme d'ailleurs dans chaque film avec Léo, il y a toujours un moment, au moins une scène où il s'agit de théâtre. Il s'agit d'une expression théâtrale. Dans chacun de ces films, il y a au moins un moment comme ça. Et là, ce dont je me suis aperçu, c'est en faisant cette galerie de personnages, qu'il fallait que je me rase complètement la tête, mais tout, les cheveux, tout, pour être disponible, pour pouvoir accueillir des visages différents. Après, je me suis dit que ces visages différents, j'avais pas le temps, ces entités différentes, j'avais pas le temps de les étudier à fond, qu'il fallait que je les inscrive en moi, ou que je les infuse pendant le temps du maquillage. Parce que le temps qui était imparti au tournage, il était assez court par rapport à l'œuvre qu'on devait faire. Parce que, effectivement, les producteurs se méfiaient de la propension qu'avait Léos sur les films précédents à déborder. Donc, à coûter beaucoup plus cher qu'il n'était prévu. Donc, on était énormément surveillés. Et on s'est tenu à ce temps-là. Il n'y a pas eu de débordement. Il n'y a pas eu d'accident. On s'en est sauvé de justesse. Et donc, je me suis dit, je me suis dit, j'ai passé des fois 5 heures devant la glace à me faire maquiller, à faire poser des prothèses, des perruques, des moustaches. Et en fait, je vais regarder. Je vais prendre ce temps-là pour comprendre. Comme, vous savez ce qu'on fait en Commedia dell'arte, quand il s'agit d'un masque, on regarde le masque. Ok, on étudie le masque et on le met. Et on a intégré ce qu'on voit. Et c'est cet exercice-là auquel je me suis prêté pendant le tournage du film. C'est-à-dire, pendant mes 5 heures ou 3 heures au moins, je me regardais. Puis j'en profitais pour voir comment la méthode, parce qu'il y a des moments où je devais me maquiller moi-même dans la limousine. Et je regardais en quoi je me transformais. Et donc, d'infuser un état physique et d'infuser aussi forcément un rythme, une pulsion sanguine. Et donc, de pouvoir, en sortant du fauteuil de maquillage, d'y être. Pas d'être le personnage, c'est beaucoup dire, mais d'être dans l'état, dans le tempérament, dans le rythme, soit du vieux, soit du gros, soit du voyou, soit de Monsieur Maire. Mais Monsieur Maire, je le connaissais, heureusement. C'est le seul que je connaissais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai procédé, quoi.
Mais c'est la même abordage quand vous jouez au théâtre?
C'est-à-dire, au théâtre, on a plus de temps. Voilà. Là, j'avais pas, on n'a pas le temps de répéter, là, on n'avait pas le temps. Il fallait être prêt. Mais j'aime bien aussi cet enjeu-là. Parce que ce qui existe dans le théâtre de rue, où il faut être prêt. On déboule et puis on est là prêt à réagir au moindre incident. Le théâtre, ce qu'on convoque comme force, comme énergie, comme démon aussi, ça c'est quelque chose qui est particulier, qui est chaque fois différent pour chaque personnage, qui est lié au personnage qu'on vous propose, qui est lié à la personnalité du réalisateur, qui est lié au texte aussi, aux matériaux. Moi, je parle de plus en plus du texte parce que quand il s'agit d'un grand auteur comme Coltès, comme Beckett, comme Shakespeare, tous les éléments, tous les renseignements, le matériau est là, quoi. Il n'y a plus qu'à lui insuffler de la vie. Mais après, ce qu'on convoque pour jouer, c'est beaucoup de monde, en fait. Pour un seul personnage, ça peut être plein de gens. Ça peut être des souvenirs personnels qui vont remonter à... parce que ça, y a ça qu'on a en racine comme émotion, comme douleur, ou comme joie, même de très loin dans l'enfance, ou plus récemment, comme des émotions amoureuses, des chocs de la vie qu'on va, rappeler à soi, quoi, ou faire résurgir pour jouer. Pour qu'on canalise pour le jeu des émotions picturales, des gens qu'on a entendus, des lectures, des bribes de poèmes. En fait, on profite de tout. C'est comme si on était une sorte de réserve.
Des sources
intarissables. De cuve, il y a beaucoup d'éléments hétéroclites qui macèrent et qu'on a accumulés sciemment. En fait, c'est quand même une démarche qui est consciente. En tout cas, pour moi. En tant que comédien. Mais Stanislavski dit pas autre chose d'ailleurs. Mais moi je me suis affranchi de toute l'aliénation que peut avoir une méthode. Moi je suis dans une non-méthode.
Mais justement, il y a un élément très important dans ce jeu-là, c'est le metteur en scène.
Oui.
En 2015, vous avez été récompensé au Molière pour les spectacles « Faire danser les alligators sur la flûte des pannes ». À cette occasion, Yvan Morin, metteur en scène de théâtre et d'opéra, vous a fait un très bel éloge. Selon lui, vous êtes un acteur magnifique à diriger. Quelle est votre posture, votre façon de fonctionner dans cette relation metteur en scène-comédien? Est-ce que ça vous arrive de résister aux directives de metteur en scène ou êtes-vous de nature plus malléable?
Les deux.
Parce que c'est une danse, c'est un ballet.
C'est un échange. C'est après, j'ai besoin du metteur en scène. Après, il y a quelque chose qui se fait dans un dialogue. Mais je sais que là où ça me plaît le plus, où ce rapport il est le plus efficient, c'est quand c'est un dialogue équitable. En sachant que le metteur en scène, il vous choisit. Donc il y a quand même déjà un rapport compliqué de pouvoir et de séduction. De pouvoir de la part du metteur en scène qui vous choisit, qui vous propose un cadre, qui vous donne la chance de jouer un personnage, qui vous voit dans un personnage, donc que vous inspirez, et donc il y a de la part du comédien ce rapport de séduction, de mériter cette confiance, de mériter d'être choisi, et en même temps, il y a un rapport de combat entre deux personnes, deux caractères des fois, comme ça a pu se passer avec Léos par exemple, mais aussi il y a un rapport de dialogue, en sachant que les renseignements qu'a le metteur en scène de théâtre, je parle là, ils ne sont pas les mêmes que le savoir que peut acquérir le comédien en infusant un texte, en étant très très proche des mots de l'auteur, donc de la personnalité, en incarnant en fait, en étant possesseur du verbe. Et y a une position intérieure, une position extérieure. Et quand ces deux postures, elles dialoguent, bien sûr dans le dessein de donner à voir, de donner à entendre un spectacle, une pièce, là c'est formidable. Et souvent, heureusement, ça se passe. Des fois, il y a des conflits. Des fois, autant je peux être très malléable, autant des fois, je peux, si on me dit c'est pas comme ça, je peux m'insurger, quoi, ou me fermer. C'est délicat parce que on est dans un endroit où c'est sensible. Parce que c'est sa vie, c'est avec sa vie qu'on joue, c'est avec sa sensibilité. Donc, des fois, ça. Il y a des accidents de parcours.
Ça peut coincer, mais quand ça se passe bien, ça peut être complémentaire.
Après, c'est des rapports humains. Donc c'est toujours très délicat, les rapports humains, quoi. Il y a de l'affect qui rentre là-dedans. Il y a une sorte de... Oui, un peu... Comment, il y a toute forme de posture. Il y a le metteur en scène qui peut se sentir extrêmement responsable de ce que vous faites. C'est-à-dire être là, rester pendant la représentation, en ayant l'impression de vous porter. Après, il dit, bah, tu te tranquillises, c'est moi qui fais le boulot quand même. C'est un drôle de rapport. Puis il y a d'autres comédiens aussi. Des fois, on n'est pas... Là, je fais des solos. Mais on n'est pas forcément tout seul.
Bah, vous jouez souvent des monologues.
Oui, souvent. Mais je ne fais pas que ça, quoi. Mais il y a ce partage, en fait. Dès que ça circule et qu'on est conscient d'être chacun au service d'une œuvre, c'est formidable. Par exemple, il y a un rapport pour moi qui a été très bien dans ce sens-là. C'est quand on avait travaillé avec Lucas Hemleb sur cette pièce qui s'appelle Figure, où il s'agissait de jouer Francis Bacon. Et en fait, c'était un texte qu'on m'avait proposé. Et je m'étais retrouvé avec ce texte, sans savoir à qui m'adresser pour le mettre en scène, en n'étant pas moi-même mettant en scène. Pardon. Et à un moment donné, j'avais une liberté. Il y avait René Gonzalez qui était au théâtre de Vidi, qui m'avait proposé de travailler avec sur une pièce qui ne s'est pas faite. Et comme je m'étais libéré pour cette pièce, il a dit bon, on va faire autre chose. Il y a ce projet de figure, on va le faire, d'accord, mais avec qui? Donc on a fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Maintenant c'est le metteur en scène qui choisit le comédien. Là on a fait un casting de metteur en scène. Mais très vite, on était au Terminus Nord, et on s'est dit, bon, avec qui on pourrait le faire? Il dit, bon, il y a un tel, il dit, bof. Puis moi, j'avais travaillé une fois avec Lucas, sur un texte poétique, sur des Oberiutes, des poètes russes. J'ai dit, tiens, il y a Lucas Hemleb. Et on l'a appelé tout de suite. Il a dit, oui, tout de suite. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et donc, on avait vraiment pleinement conscience d'être tous les deux dans ce rapport de se mettre au service, de travailler ensemble pour se mettre au service d'une œuvre, pour faire émerger un spectacle, voilà, en faisant de son mieux, en ayant oublié ce rapport de séduction et de pouvoir de mettre en scène, juste en étant sur le même cheminement, quoi. Et c'était formidable. C'était un moment très beau, quoi.
Denis Lavant, j'ai envie de vous poser une question un peu enfantine, peut-être. Mais comment vit-on quand on est habité en permanence par des personnages? Je suppose que c'est votre cas, puisque vous jouez au théâtre très souvent et depuis très longtemps. Comment vous faites pour redevenir, tout simplement, vous-même?
Mais je ne sais pas, en fait, je ne sais plus très bien. Parce que, en fait, la difficulté, c'est de ne plus être avec cette excuse pour exister d'un masque, d'un personnage, d'une entité, d'un tuteur, comme si c'était une seconde colonne vertébrale qui vous maintenait. C'est une manière qui vous justifie d'être en vie, parce que ça donne confiance en soi. Parce que comment d'être préoccupé par le fait d'alimenter l'esprit ou le mouvement d'un personnage. Mais bon, sinon, moi, je suis tout le temps dans ce phénomène-là, dans cette pratique-là. Il y a les personnages. Bon, il y a plusieurs personnages que je joue. En même temps, le personnage, j'y crois de moins en moins, en fait. C'est-à-dire, pour moi, je crois à donner forme à une pensée et dans un style, avec un style d'écriture, se prêter à cet exercice-là. Mais la définition d'un personnage tel qu'on peut l'enseigner plus ou moins dans les écoles, ça me semble un peu dépassé, parce que plus on fait la démarche de jouer un personnage en tant que comédien, plus on a affaire à des auteurs qui sont très riches, qui témoignent d'une grande densité d'expérience humaine, plus on va vers de l'humain. Et plus on va vers de l'humain quand on montre un personnage, plus c'est un être composite et complexe qu'on va donner à voir ou à entendre. Plus c'est quelque chose qui est plein de facettes, de cellules, qui n'est pas une entité bien dessinée, qui n'est pas un stéréotype. Comme je peux le faire dans le théâtre de mélodrame forain que je joue en ce moment. Le beau Gérard, c'est un stéréotype. C'est le méchant de service, quoi. Et même encore là, ça retentit plus largement que ça. Mais pour moi, le personnage, il existe dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Dans sa parole et dans son acte. De plus en plus, je m'en tiens à ça, à ce comportement-là, et dans la qualité, dans le ton de ce qu'il a à dire et dans la qualité de son geste. Et là, il y a une infinie richesse qui peut se déployer, parce que de nuances, il y en a entre la parole, entre le son et le mouvement, il y a plein de nuances. On peut faire des combinaisons à l'infini. Et c'est ça qui est merveilleux. Et moi, si vous voulez, dans la vie, dans tous les jours, quand je ne joue pas, bah, je continue aussi, d'une certaine manière, à me manifester dans cette quête. Est-ce dans cette exploration, dans cette manière d'être en vie, en fait.
Est-ce qu'on a les droits de convoquer les entités qui nous ont habités autrefois dans des pièces, dans des films?
Tout à fait.
On peut en jouer dans la vie de
oui,
tous les jours.
Oui, c'est pas de se mettre à faire Hamlet ou de faire Richard III dans la vie de tous les jours, mais on peut les convier par bribes, par... oui, même... Mais si vous voulez, autant que pour des personnages qu'on joue, qu'on est amené à jouer, on peut convier du vivant ou des proches, des gens, on peut convier son intimité, des gens qu'on a connus, qui sont morts ou qui sont vivants. Pour moi, je suis peuplé d'entités, de personnalités que j'ai côtoyées, qui sont pas que de l'imaginaire. Seulement, l'imaginaire, ça n'existe pas complètement. L'imaginaire, il est produit par le réel. Il est produit par une manière de dilater le réel ou de l'emmagasiner ou de le faire fleurir en soi. C'est de là que est possible l'imaginaire. Ce niveau-là qui fait qu'on supporte la vie, le quotidien aussi, quoi. Donc moi, je continue à être au quotidien. C'est-à-dire, si vous voulez, avant de jouer, avant de faire vraiment l'acteur, comme on dit, ou le comédien, moi, j'ai déjà été... J'ai trouvé une manière de me comporter dans la réalité de manière poétique, de manière pas tout à fait terre-à-terre, c'est-à-dire d'être quand même dans du rêve, c'est-à-dire de me comporter en marchant sur un fil ou sur des rambardes, en ayant un comportement excentrique et en cultivant une parole poétique, en apprenant des poèmes, mais pas forcément pour les dire, pas pour gagner ma vie avec, pour avoir ce discours-là, des choses qui me plaisaient, pas forcément charmants, des fois des choses morbides, des choses funèbres, telles que ça peut s'évoquer dans les poèmes, des choses sur la mort, sur la passion, sur l'amour, une parole forte, une intensité de pensée forte que je pouvais me murmurer à moi-même. Donc voilà, ça je continue à le faire parce que c'est une manière de se comporter aussi dans la vie de manière ludique.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Dany Legras avec Denis Lavant. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Laurent Macchetti, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne ce podcast sur franceculture.fr.